Vous écoutez France Culture.
Réplique « Qu'est-ce que l'hubris ?» avec Jean Clair et Jean-François Mattei. À la fin du paragraphe 224 de « Par-delà le bien et le mal », Nietzsche écrit « La mesure nous est étrangère, reconnaissons-le. Ce qui nous démange, c'est précisément la démesure et l'illimité. Semblable au cavalier qui va de l'avant sur sa monture haletante, nous lâchons les rênes devant l'infini, nous, hommes modernes et semi-barbares. Et nous ne connaissons enfin notre félicité que là où nous sommes le plus en danger. De cette démangeaison, nous allons parler aujourd'hui avec le philosophe Jean-François Mattei, qui a publié naguère « Le sens de la démesure, hubris et diké », et avec l'historien d'art Jean Clair, qui publie aujourd'hui « Hubris, la fabrique du monstre dans l'art moderne ». Ces deux ouvrages traitent d'objets différents, mais tous deux nous parlent du XXe siècle et tous deux recourent au grec « hubris ». Pourquoi ce mot ? Que nous dit-il que notre langue aurait oublié et que notre raison ne prendrait pas en compte ? Jean-François Mattei.
Eh bien, hubris est un terme très très courant dans la pensée grecque, mais qui marche toujours en couple avec diké. Alors on pourrait traduire dans un premier temps hubris par démesure, mais aussi par outrage, par insulte, par insolence, c'est-à-dire par toute transgression dans la parole ou dans l'action, et c'est toujours mis en parallèle avec la notion de Diké, Diké qui est la fille de Thémis, la déesse de la justice, et qui représente la justice humaine, la règle. Diké, qui est lié au verbe grec deknumi, signifie montrer. Donc au fond, Diké, c'est la déesse qui montre le droit en le montrant du doigt, en quelque sorte. Digitalement, en insistant sur la direction qu'est le droit. Tandis que l'hubris, c'est une sorte d'explosion générale de violence et d'énergie qui ravage d'une certaine manière pour les Grecs non seulement le monde, le cosmos, mais qui ravage aussi la cité, la police, et qui ravage aussi l'homme, anthropos.
Oui, alors vous dites, on met hubris en couple avec diké, il y a un autre couple, si ma mémoire est bonne, mais vous me direz si je me trompe, c'est le couple Hubris-Némésis, déesse dite de la vengeance, mais qui est là aussi pour punir l'homme qui s'est livré à l'hubris. Jean-François Mattei.
C'est plus précis encore que cela, car Némésis, c'est un terme, c'est une divinité un peu abstraite, si vous le voulez, à la différence d'autres divinités comme Athéna ou comme Thémis. C'est une divinité abstraite qui représente plutôt le rééquilibrage et donc la vengeance. C'est lié à un verbe « nemein » qui signifie « partager, donner son lot à chacun ». Et c'est lié aussi au mot « nomos » qui désigne la loi, d'où notre autonomie, le fait d'être libre quand on se donne à soi-même sa loi. Et la némésis, c'est la justice immanente, comme nous dirions aujourd'hui, qui fait qu'il y a sans arrêt des rééquilibrages dans le monde, dans la cité et dans l'homme, quand une violence a outrepassé les limites. Quand on est allé au-delà de toute transgression possible, la némésis vient châtier. J'ajoute que pratiquement très peu d'auteurs au XXe siècle, puisqu'on va parler du XXe siècle, ont parlé de la némésis. C'est l'auteur le plus important qui en a parlé de façon presque systématique. C'est Albert Camus qui utilise cette image ou cette figure symbolique.
Oui, nous y reviendrons. Mais alors précisément, quel est le rapport de la modernité avec l'hubris ? L'hubris était au cœur de la pensée grecque, reste-t-elle au cœur de la pensée moderne ou bien au contraire, celle-ci a-t-elle donné congé à cette inquiétude grecque devant la démesure ?
C'est d'autant plus complexe que la pensée européenne ou occidentale, donc la rationalité, a voulu hériter de la notion de mesure, de métrone, de maître étalon pour toutes les choses, tout en héritant en même temps de l'hubris, ce qui fait que, curieusement, l'hubris s'est retrouvé dans la rationalité moderne.
Ah oui, c'est ça.
Dans l'un de mes derniers ouvrages qui s'appelle « Le procès de l'Europe », je fais remarquer que la devise, finalement, de l'Europe a toujours été la devise de l'Espagne et de Charles Quint, qui avait donné comme devise à l'Espagne encore aujourd'hui, en 2012, plus ultra, en reprenant l'expression traditionnelle nec plus ultra, qui était imputée à Hercule, Héraclès, quand il avait fermé les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire la Méditerranée. Et l'injonction des dieux avait été de dire au héros Hercule, il ne faut pas aller au-delà, nec plus ultra. Charles Quint, l'empereur d'Europe, a supprimé le nec et a pris comme devise, non seulement pour l'Espagne et pour le sort, plus ultra, c'est-à-dire plus outre dans le français de l'époque.
Oui, on pourrait presque dire que l'hubris, qui était le dérèglement pour les anciens, devient en quelque sorte la règle chez les modernes. Alors vous avez le plus ultra de Charles Quint et j'ai devant moi une magnifique envolée de Victor Hugo dans Les Travailleurs de la mer. Tout borne l'homme, mais rien ne l'arrête. Il réplique à la limite par l'enjambé. L'impossible est une frontière toujours reculante. The sky is the limit, disent les Américains.
Tout à fait.
Alors Jean-Clair, vous avez choisi pour titre de votre livre où il est question de l'art contemporain, Hubris.
Oui, c'est pas l'art contemporain, c'est l'art moderne à partir de, disons, du romantisme en gros, c'est-à-dire à partir de cette espèce d'appétit, de goinfrerie même, de l'illimité, qui témoigne de la sensibilité romantique. Pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, la question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il une possibilité de limiter l'illimitation ? Ce qui permettrait d'établir un canon de l'art moderne et contemporain. Or, c'est exactement le contraire. À partir le terme, si vous voulez, le livre commence à partir du moment où disparaît la notion des beaux-arts. La notion de beaux-arts, c'est-à-dire d'une création mesurée, limitée, normée, harmonieuse, s'effondre devant une science nouvelle qui s'élabore à ce moment-là, qui sera l'esthétique, c'est-à-dire la science de la sensation. Or, par définition, si les beaux-arts sont fondés sur la mesure, l'esthésis, la sensation, est fondée sur toujours le nec plus ultra de la sensation. L'usage des drogues, si vous voulez, est l'exemple le plus banal, le plus vulgaire, le plus grossier, le plus quotidien de ce besoin d'illimitation dans l'esthésis, dans l'esthétique. Et donc là, ça définit deux façons de figurer le monde totalement opposées. Je comprends bien que Nietzsche en fasse le point de départ de sa philosophie, y compris dans ses errements futurs. Mais c'est encore une fois une chose très étonnante de constater que cette domination de l'esthésis au sens de l'illimitation de la sensation par rapport à la norme mesurée de l'esthétique classique, c'est aussi comparer deux chronologies complètement incomparables, puisque là, si vous voulez, l'esthétique des beaux-arts depuis Polyclète jusqu'à Vitruve et de Vitruve jusqu'à Léonard de Vinci ou jusqu'à, je sais pas moi, David, si vous voulez, ça met en cause des siècles et des siècles, alors que l'esthétique issue de Nietzsche et de l'illimitation romantique, c'est à peine deux siècles. Donc on compare deux fragments du temps qui sont en fait incomparables et qui, moi, me donnent plutôt l'impression que ce que nous vivons actuellement, c'est la fin de quelque chose et en même temps l'effondrement de quelque chose qui a duré pendant des siècles et des siècles et dont on voit aujourd'hui l'effondrement total.
Oui, mais en même temps, quand on parle d'esthétique, c'est précisément qu'on continue d'avoir en tête la beauté, la recherche de la beauté. Est-ce que vous n'allez pas vite en besogne en disant que, au fond, c'est à l'esthétique qu'il faut imputer l'éclipse de la beauté dans l'art? L'éclipse de la beauté dans l'art, c'est un de vos thèmes qui réapparaît dans Hubris, bien sûr, mais peut-être est-il cette éclipse est-elle tout de même plus tardive? Les romantiques continuait d'avoir le souci de la beauté. On peut même dire que le romantisme est un élargissement des critères de la beauté par rapport au canon jugé trop étroit de l'art classique. Jean-Clair.
Oui, je vais vous donner une image, parce qu'en historien, il vaut mieux parler avec des images. Une image qui va vous faire plaisir, il s'agit de Hannah Arendt, qui visite une exposition de Matisse à Chicago et qui voit en particulier les 5 bustes sculptés de Jeannette, qui était le modèle accoutumé du sculpteur. Elle dit, la première des 5 têtes est à son image, et ensuite l'une plus laide que la précédente, comme si on enlevait une couche après l'autre, et la dernière, ajoute-t-elle, monstrueuse, qui fait apparaître la première, comme si notre visage n'était qu'une façade précaire. Ce terme de façade précaire m'a évoqué effectivement la théorie de Polyclète sur l'harmonie, qui va jusqu'à faire que la dernière intervention du sculpteur, c'est à l'ongle près, dit-il, c'est vous qui le citez, à l'ongle près. C'est-à-dire qu'une fois que l'harmonie des proportions du corps humain a été définie, de la main au torse, du torse au visage, du visage au corps tout entier, donc des portions à la totalité, il reste encore cette toute petite pellicule à l'ongle près que Hannah Arendt retrouve au fond dans son expérience presque naïve des 5 bustes de Matisse. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque classique, à l'époque des Beaux-Arts, c'est le premier buste qu'on aurait retenu comme modèle. Aujourd'hui, à l'époque actuelle, le modèle, c'est devenu le dernier, c'est-à-dire le monstre. Oui. C'est quand même intéressant que le paradigme devienne un paradigme du monstrueux. Je vous donnerai un autre exemple, 1907, qui est une date importante dans l'histoire de la peinture, c'est les Demoiselles d'Avignon d'un certain Picasso. Lorsque Salmon, le poète, voit ce tableau, il dit « Mais je n'ai jamais vu une chose aussi laide. Les visages sont d'une hideur monstrueuse. Surtout, Pablo, ne montrez pas cette toile. » Et la toile, effectivement, va rester roulée dans son atelier pendant des années et des années. Donc, brusquement, le chef-d'œuvre sur lequel on a fondé en grande partie la modernité se révèle être le modèle est un monstre, est quelque chose de tératogène. Mmh. Hubris, c'est vrai qu'il n'est pas passé dans la langue française. Mais il y a un mot qui lui ressemble beaucoup, qui est hybride. Qu'est-ce que c'est que l'hybride ? C'est la chimère. La chimère, l'organisme appelé chimère, c'est précisément la fabrication des monstres. La fabrique au sens de Vézal, lorsqu'il parle de la fabrique du corps humain. Mais cette fabrique n'est plus du tout la fabrique d'un être normé, mesuré, qui relève des beaux-arts. Ça relève au contraire de l'expérimentation biologique qui relève de la chimère, donc de l'hubris.
Alors, la question que je vous pose à tous deux, si des mesures il y a, notamment dans l'art, pourquoi ? C'est-à-dire, d'où cela vient-il ? Quel est le mouvement qui nous y pousse, Jean-François Mathé ?
Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jean-Claire à propos de l'esthétique et de sa critique implicite ou même explicite de l'esthétique. Je vous ferai remarquer que, puisqu'on vient de parler d'Anna Arendt, parlons de son maître, à savoir Heidegger, que Heidegger fait remarquer que ce qui définit la modernité, enfin l'un des 4 ou 5 traits qui définit la modernité, c'est ce qu'il appelle l'entrée de l'art dans l'horizon de l'esthétique. Et pour Heidegger, c'est catastrophique. Pourquoi ? Parce que c'est l'entrée de l'art de ce qui était auparavant quelque chose de cosmique, d'architectonique, dans le domaine de ce que Céline appelait la petite sensation. Aesthésis veut dire la sensation, fondamentalement. Et d'une certaine manière, beaucoup d'auteurs l'ont remarqué. Je pense par exemple à Claude Lévi-Strauss, quand dans un article fameux qui s'appelle « Le métier perdu », il s'agit du métier de la peinture, lorsque Lévi-Strauss fait remarquer que le désastre en peinture et la perte du visage ou la perte de tout ce qui était, encore une fois, architectonique et structuré, idéalisé, vient du fait que les impressionnistes ont remplacé la représentation du monde et des objets du monde par leurs petites sensations, par leurs impressions. Mmh. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, ce qui a entraîné la fin des beaux-arts, comme l'a remarqué Jean-Claire tout à l'heure, c'est essentiellement l'intrusion de l'esthétique, c'est-à-dire l'intrusion de la subjectivité, alors qu'il n'y avait aucune subjectivité. La notion n'existait même pas dans la pensée grecque, dans l'art grec, ou chez Vitruve, ou chez Léonard de Vinci, comme vous le disiez tout à l'heure. Quand le sujet ramène tout à lui-même, ramène le monde à ses propres proportions, quand l'homme devient la mesure de toute chose, il perd le sens de l'art, il perd le sens du monde, et il perd en même temps, corrélativement, le sens de l'homme. Ce qu'il y a de remarquable dans l'ouvrage de Jean-Claire, qui s'appelle donc Hubris, c'est ce qu'il dit à un certain moment, tout son ouvrage tourne autour de cela, « À partir de quand avons-nous cessé de pouvoir nous supporter ?» Je trouve cette phrase tout à fait exceptionnelle. « À partir de quand, effectivement, l'homme a-t-il éprouvé le besoin ?» de suspecter sa propre identité ou son propre visage jusqu'à faire de l'homme un acéphale, comme vous le dites à plusieurs reprises.
Jean-Claire, oui, l'acéphale étant la figure la plus extrême et en même temps la plus troublante.
Et c'est le titre d'une revue de Georges Bataille.
Et en même temps, le projet de ce collège de sociologie qui aurait été fondé tout de même sur une sorte d'acte parareligieux, paramystique, je ne sais pas comment dire ça, un sacrifice à la limite de la légalité, pour être gentil. Et c'est quand même très étonnant que de prendre un homme sans tête comme nouvelle divinité à adorer, à respecter et à laquelle sacrifier des êtres humains. Alors je fais effectivement un petit peu l'historique, la chronologie de l'apparition de cet acéphale, étant entendu que l'acéphale existe aussi dans certaines mythologies antiques que je rappelle, mais il prend chez Bataille et chez les surréalistes un sens très très particulier. Alors c'est là peut-être que l'on pourrait, comment dire, je parle du géant, la figure du géant qui est beaucoup plus facile évidemment à comprendre, et le passage du géant comme figure protectrice, comme figure effectivement qui installe une présence, un géant qui est debout, qui est statique, et qui est en général un géant protecteur dans l'iconographie chrétienne ou dans d'autres iconographies. Et la façon dont ce géant statique protecteur devient un géant qui bouge et qui devient très menaçant. On passe en gros, si vous voulez, du Christophore qui porte le Christ sur ses épaules à ces figures de géants monstrueux dont les dernières incarnations ont été les gigantomachies de Staline, de Lénine ou de Pol Pot ou de Kim Il-sung en Corée, figures de 35 mètres de haut dominant les humains et qui ne regardent plus en haut, qui regardent vers l'avant. Donc là, on retrouve Nietzsche, il ne s'agit plus de regarder vers le haut, il s'agit d'aller vers l'avant, toujours de plus en plus loin, d'ouvrir les frontières à toutes les conquêtes, parce que j'ai bien de côté quand même très guerrier, possible.
Mais alors, quand même, là, on peut introduire une typologie, une dichotomie. Les figures que vous examinez, il y a l'homoncule, le géant oui. Et l'acéphale. Bon, alors, nous reviendrons à l'acéphale, parce que vous en faites une généalogie passionnante, Jean-Claire, qui remonte à la guillotine. Hein, c'est le début de l'éclipse, dites-vous, du visage, du portrait en peinture. Mais restons-en un instant au géant. C'est là l'image, évidemment, de l'hubris. Mais il y a des artistes comme Arnaud Brecker qui célèbrent le culte de l'homme nouveau, précisément par leurs œuvres, sculptures ou peintures, gigantesques. Et puis il y a ceux qui le dénoncent, comme Georges Grosz, comme ça qu'on
dit. Oui.
Avec son Hitler aux enfers, un personnage immense, affaissé sur le rebord d'un trou dans lequel s'entassent des milliers de squelettes, dans le fond des villes en train de brûler, et puis un motif biblique, un corps allongé dans son sein, Abel assassiné par Cain. Et puis vous avez aussi le guerrier de Kubin, un guerrier gigantesque armé de sa hache, piétinant tout sur son passage. Et peut-être pourrait-on même aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y aurait ceux qui sont du côté de l'hubris, et ceux parmi les philosophes, mais aussi parmi les artistes, qui seraient plutôt du côté de Némésis. Et peut-être qu'il y a cette ligne de partage à l'intérieur de la pensée moderne et contemporaine.
Je trouve que le partage s'est fait de moins en moins bien dans la pensée contemporaine, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y a eu une dérive vers l'hubris de plus en plus grande. Hubris est un terme dont, en plus, on ne connaît pas très bien l'étymologie en grec. Il semblerait que ce soit lié à hyper, toujours cette volonté de dépasser, de transcender toujours, et de violer les limites en quelque sorte. En tout cas, dans la pensée moderne, ce qu'il y a de tout à fait remarquable, c'est qu'il y a une volonté de destruction ou de dissémination, comme dirait Jacques Derrida, de la figure humaine en tant que telle, précisément dans la mesure où la figure humaine, traditionnellement, était liée à travers l'art, mais pas uniquement, la littérature, la poésie, la musique, la philosophie, bien entendu, était liée à la dimension non seulement du cosmos où tout était ordonné, mais à la dimension de la cité où la loi devait régir les actions des hommes. Or, ce qu'il y a de remarquable dans la modernité tardive, dans ce qu'on appelle parfois la postmodernité, même si je n'aime pas trop cette expression, c'est de voir que de plus en plus, l'image de l'homme, comme l'avait dit d'ailleurs Michel Foucault, s'efface de plus en plus jusqu'à perdre la tête. Et d'ailleurs, il y a un texte de Jacques Derrida dans lequel Derrida dit « L'effet de la dissémination, c'est de perdre la tête, ne plus savoir où donner de la tête. » Comme si véritablement la tête, c'est-à-dire le chef, c'est-à-dire caput, c'est-à-dire la raison, n'était plus la bienvenue, en quelque sorte, dans cette sorte de postmodernité où il s'agirait de détruire complètement la tête. Je prends un dernier exemple en ce qui concerne l'acéphale. Il y a un poème de William de Kostrovitsky, c'est-à-dire d'Apollinaire, dans Alcool, le premier poème d'Alcool qui s'appelle Zone, qui se termine par « Soleil cou coupé ».
Oui.
Alors là, vous retrouvez la guillotine. Soleil, oui. Cou coupé. Le soleil qui représente symboliquement le père, qui représente symboliquement l'homme, mais qui représente évidemment symboliquement Dieu ou le roi.
Oui.
Et donc, il y a une sorte de volonté guillotinesque, si je puis dire, de détruire la figure de l'homme à travers la figure du roi, la figure de Dieu et la figure de l'individu.
Oui. Alors, Jean-Claire, le soleil cou coupé, cette généalogie de l'acéphale.
Oui, tout à fait. C'est vraiment l'anus solaire de bataille pro avant la lettre. Il y a une autre chose à propos d'Apollinaire qui se rajoute, c'est qu'il, je ne sais plus dans quel texte, il parle de son expérience d'avoir été pour la première fois radiographié.
Ah oui.
Après avoir été trépané, donc en 1916 ou 17, je crois, après avoir été blessé à la guerre, trépané, il voit la radiographie de sa tête. Il est à la fois émerveillé devant les progrès de la science qui lui permettent de voir le siège de céphalée, tout ce que vous voulez, et en même temps terrifié en disant comment est-ce que nous, poètes, nous allons pouvoir désormais parler de poésie. Et la même réflexion à la fois consternée, effrayée, se retrouve dans un texte que je lis, que je cite beaucoup, qui est la montagne magique de Thomas Mann, lorsque le héros voit pour la première fois la photographie des poumons malades de Claudia Chauchat, et il ajoute ce que je n'avais pas vu au départ, que la plaque radiographique qu'il voit est une plaque d'un être qui a été décapité. Donc il voit à la fois ça, il voit à la fois la réalité scientifique de ce qu'est un poumon abîmé, mais aussi d'un corps passionnément aimé, celle de ça, qui est décapité. Donc il y a là toute une thématique de la décapitation qui effectivement commence sur ce point obsessionnel avec les guillotinages en masse et industriels de 1792, et qu'ensuite qui vont donner des variations extraordinairement étonnantes et très riches, mais il ne s'agit pas de jeter le bébé à l'eau du bain. Mais pour revenir sur Nietzsche, une fois, une phrase très étonnante de Nietzsche, c'est dans la naissance de la tragédie, lorsqu'il dit qu'au fond, l'effort de l'art moderne et contemporain, qu'on appelle aujourd'hui l'art post-human, c'est encore pire que post-moderne, post-human, c'est de revenir à ce qu'il appelle la primitive théogonie titanique de l'effroi. C'est-à-dire l'effroi substitué à l'admiration, la théogonie titanique substituée à l'admiration de la sérénité apollinienne, c'est effectivement quand même un renversement à 180 degrés dans lequel nous sommes encore aujourd'hui plongés, malheureusement avec parfois un peu moins d'élan et un peu moins de conviction qu'en 1880.
Alors, je cite la phrase d'Apollinaire que j'ai sous les yeux, à laquelle vous faites référence, Jean-Clair. « Mais n'y a-t-il rien de nouveau sous le soleil? Il faudrait voir. Quoi? On a radiographé ma tête, j'ai vu, moi vivant, mon crâne, et cela ne serait en rien de nouveau à d'autres. » Et Jean-Clair, vous donnez une importance capitale, névralgique, à la date de 1895 dans votre livre, puisqu'on y voit simultanément l'invention du cinématographe, la découverte des rayons X et la découverte de la radiotéléphonie. Toute découverte qui dépossède un peu le peintre, malgré tout. Et d'où la phrase de Duchamp, « bête comme un peintre ». Mais
C'est-à-dire que le peintre, jusque-là, avait l'illusion de moins en moins fondée, mais enfin, il la gardait qu'il partageait un savoir du corps qui était à peu près égal au savoir du scientifique ou du médecin, au point que les cours d'anatomie étaient indistinctement donnés à Paris comme à Padoue, dans des théâtres d'anatomie fréquentés à la fois par des scientifiques ou des médecins et par des artistes. C'est évident qu'à partir du moment où ce qui se passe en 95 et un peu avant, un peu après, bien sûr, l'artiste est totalement dépossédé de tous ses moyens et il est renvoyé à sa subjectivité, ou alors à son arrogance, ou alors à sa paranoïa galopante, comme on le voit aujourd'hui, où l'artiste, au fond, le seul personnage de la société, qui puisse faire n'importe quoi impunément. Il est considéré comme un nouveau dieu. Donc il y a là quand même une espèce de dérive. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la subjectivité impressionniste de la petite sensation, c'est aussi celui qui va proposer des théories absolument extravagantes, et aussi des espèces de dérives occulto-mystiques qui commencent avec Malevitch et qui se terminent, je ne sais pas avec qui, je n'ose pas donner de nom aujourd'hui, parce que ça serait trop polémique. Donc il y a là, on est vraiment dans l'hubris totale, dans la démesure absolument monstrueuse, si je puis dire.
Le paradoxe, c'est que l'effacement du visage de l'homme et de la représentation de la peinture de portrait dont vous parlez, Jean-Clair, est en même temps corrélatif du développement d'une subjectivité complètement débridée, mais qui n'est plus une subjectivité, si je puis dire, de l'homme en tant que tel, mais des puissances qui le ravagent de l'intérieur, en quelque sorte, c'est-à-dire de toutes les forces de l'hubris qui se retrouve chez l'artiste moderne. L'artiste n'est pas simplement devenu, depuis le romantisme, un artiste maudit. C'est devenu un artiste qui se permet n'importe quoi du simple fait que sa subjectivité ou son sentiment se manifeste en tant que tel. Il y a une sorte de préfiguration de ce que serait l'homme vidé en quelque sorte de son humanité. Il est quand même très très curieux de voir la disparition du visage humain, la disparition de la tête, la disparition de la raison, la disparition de tout ce que Derrida appelle dans la dissémination, je vous lis le texte parce qu'il est vraiment tout à fait étonnant, le dit, c'est-à-dire la parole, le dit déité, basileo patro helio théologique. C'est-à-dire qu'il s'agit de détruire tout ce qui renvoie au basileo, c'est-à-dire au roi, tout ce qui renvoie au patro, au pater, au père, tout ce qui renvoie à l'hélios, au soleil, soleil coucoupé, et tout ce qui renvoie au théos, c'est-à-dire au dieu. C'est-à-dire que toutes les instances supérieures, toutes les instances transcendantales, comme on dit parfois en reprenant l'expression kantienne, sont effacées progressivement, et quand vous effacez toutes les instances transcendantales, vous effacez en même temps la figure de l'homme.
Revenons quand même, Jean-Claire, justement, on va en rester à cette question du visage, du portrait. Revenons à votre livre et au lien que vous faites entre le début de l'éclipse du portrait en peinture et la guillotine. Vous dites que la guillotine ratifie une telle éclipse. C'est une proposition très étrange, très singulière. Alors est-ce que vous pourriez un peu motiver, l'expliquer?
Vous allez dire, je vais vite en besogne là aussi. Mais je crois tout de même que c'est quelque chose là qui se passe. C'est-à-dire là, comment le résumer par des mots en quelques secondes? C'est extrêmement, parce que c'est assez compliqué à saisir. Évidemment que la décapitation a existé à toutes les époques, et c'était même le supplice réservé aux nobles. Donc la Révolution prétendra qu'elle est humanitaire et sociale et démocratique, puisqu'elle élargit le supplice à l'ensemble à l'ensemble du genre humain, pas seulement à l'aristocratie. Mais là, le grand changement, c'est tout de même que c'est une machine construite sur le principe que l'homme lui-même est une machine, l'animal-machine, l'animal-montre, comme chez Descartes ou chez... et même encore chez Diderot, et que cette machine industrielle donne la mort industriellement et sans intervention de la main humaine, puisqu'il y a un fameux déclic inventé par Tobias Schmitt qui permet à la machine de fonctionner sans que l'homme lui-même intervienne subjectivement avec sa grande épée et sa maladresse. Donc il y a là tout de même un passage à la massification, puisqu'à un moment, il y aura tellement de guillotinés sur cette place de la Concorde aujourd'hui, même plus s'y aventurer, tellement ça pue la charogne et ça pue le sang. Mais aussi, c'est une mort pour la première des cadavres. Que faire des cadavres qui s'empilent? Il n'y a pas de cimetière assez grand désormais pour les accueillir. Donc là, se dessinent les traits d'une société qu'hélas, nous avons commencé à bien connaître quelques décennies plus tard, avec peut-être d'autres aspects plus terrifiant encore, avec le bannissement, par exemple, du miroir dans les camps. Les prisonniers étaient interdits d'avoir un miroir. C'est la première phrase de Primo Levi dans son témoignage sur Auschwitz. Bon. Et quand la seule façon de nous voir, c'est de regarder les autres. Mais les autres, évidemment, nous tendent un miroir de nous-mêmes. Je ne parle pas de ça dans ce livre, mais il y a une très très longue, si vous voulez, histoire qui reste à écrire de la disparition du visage et qui commence effectivement par la mort industrielle de la guillotine et aussi par cet acte extraordinaire qui est de couper la tête du roi, qui est quand même, selon la théorie des deux corps du roi, un symbole d'une violence absolument inédite. Alors là, il y a vraiment un passage qui est franchi.
D'accord, disparition.
Je ne suis pas monarchiste, par ailleurs.
Non, mais c'est disparition du visage dont on a vu, si vous voulez, les conséquences paroxystiques au XXe siècle, avec les camps de concentration et d'extermination. Mais pourquoi l'art aurait-il lui-même été affecté par cette disparition? Pourquoi l'aurait-il, si vous voulez, épousé, entériné? D'autant plus que il y a des passages absolument saisissants dans votre livre, Jean-Claire, sur la vie des visages ou la vie des têtes après la décapitation, et qui ont eu un effet, d'ailleurs, sur les contemporains et sur leurs successeurs. C'est-à-dire que là, il y a un traumatisme. Vous citez l'assistant de Samson, qui, dans un geste de bravade, avait saisi par les cheveux la tête sanguillonnante de Charlotte Corday et l'avait souffleté. À l'horreur de la foule, réalité ou hallucination collective, la joue avait rougi et la rougeur s'était étendue à l'autre joue. Charlotte, ainsi, après avoir été décapitée, avait manifesté sa honte et était devenue une martyre. De même, Marie-Antoinette, eh bien, après avoir été tranchée, sa tête aurait encore battu des paupières. Voilà, qui donne plutôt au visage presque le dernier mot sur la mort.
Oui, et en même temps, c'est le renversement des idéaux révolutionnaires et des idéaux des Lumières, de fonder un homme enfin bâti en raison et en luminosité, si j'ose dire. Et en fait, ce qu'on voit apparaître, c'est ce que j'appelle une armée de morts-vivants, une armée de zombies qui vont envahir la littérature romantique, et pas seulement des petits romantiques. C'est-à-dire, c'est pas l'idée qu'on est en train de régénérer l'homme que l'on accomplit. Et cette idée de régénération aura elle aussi une postérité dramatique, tragique dans notre histoire. Mais c'est en fait, ce qu'on voit apparaître, c'est pas du tout des hommes régénérés, ce sont des zombies. Ce sont des zombies qu'on va voir dans les récits d'Edgar Poe, de Nerval, de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas, et ainsi de suite. Donc un monde absolument à l'opposé, complètement à l'opposé des idéaux révolutionnaires.
Mais cela témoigne effectivement d'une régression de l'humain et de l'histoire. Vous citez à un certain moment la phrase de Georges Bataille dans l'Acéphale, qui est quand même extraordinaire. « Il est temps, écrit Bataille, d'abandonner le monde des civilisés et sa lumière. » Comme si nous étions au bout du chemin, en quelque sorte, de l'histoire, comme si la civilisation et la lumière, on retrouve toujours l'image du soleil, étaient derrière nous, et que ce soleil qu'il faut décapiter, soleil coup coupé, ne nous offre plus que de l'ombre, en quelque sorte. Nous sommes entrés dans une sorte de nuit, dans une sorte de voyage au bout de la nuit, qui ne nous conduit nulle part, dans la mesure où nous n'avons plus d'espérance, en quelque sorte.
Et même de crypte et crypte et catacombe, même. Plutôt que parmi les causalités, si vous voulez, que vous avez citées, le cinéma, les rayons X, la téléphonie, il y a tout un filon que vous n'avez pas cité, que je rappelle à cette occasion. C'est évidemment la découverte de l'hystérie, c'est-à-dire le fait que, avec Charcot à la Salpêtrière, Réja avec son art des fous, et bientôt avec Freud, on découvre un immense domaine de gens dont l'anatomie ne fonctionne pas selon les lois normales de l'anatomie. Elle fonctionne, les malades, les patients, les patienteux, c'est comme par hasard des femmes, sont affligés de paroles, de mouvements, de gestes et d'actions qui ne respectent pas les lois de l'anatomie. Ce non-respect des lois de l'anatomie, évidemment, corrobore l'abandon du système normatif des beaux-arts et nous introduit dans un domaine qui va être celui de l'hystérie, dont Freud va faire la base de son enseignement avec les trois niveaux, tout ce que vous voulez, mais surtout qui va avoir une influence sur les artistes qui nous occupent ici, puisque Breton va célébrer en 28 le cinquantenaire de la naissance de l'hystérie. Alors qu'il célèbre en fait une souffrance abominable, tout comme Deleuze célébrera plus tard la schizophrénie comme étant l'apothéose, l'aboutissement.
Et les corps sans organes.
Et les corps sans organes, qui sont en fait une maladie, la maladie de Cotard. Chose abominable, monstrueuse. Or, ce sont ces modèles monstrueux, pathologiques, les plus extrêmes, les plus souffrants, qui deviennent les nouveaux modèles de la création artistique. C'est quand même là quelque chose. Lorsque Breton dit « il faut que la beauté soit convulsive »,
voilà. ne sera pas convulsive.
Convulsive, c'est évidemment un terme emprunté à la médecine de l'époque, et en particulier à la médecine des hôpitaux psychiatriques de femmes. Donc il y a quand même tout un côté plus que sombre, cataleptique, catacombique de la création contemporaine, que je ne cesserai pas de dénoncer après tous ces éloges pendant des décennies et des décennies, et qui continuent d'ailleurs d'être célébrés par des instances officielles.
En même temps, vous faites l'un et l'autre remonter cet état des choses avec Heidegger, Jean-François Mettei, au surgissement de l'esthétique avec le rôle exorbitant, démesuré, hubristique peut-être, que celle-ci donne à la subjectivité. Simplement, quand nous nous retournons, nous voyons que l'art et la peinture au XXe siècle sont pleins d'œuvres que nous jugeons belles. Il y a une incroyable beauté dans l'œuvre de Matisse, même si j'entends bien ce que vous dites de Hannah Arendt, et les portraits je pense, malheureusement, mes connaissances en peinture sont très lacunaires, mais j'éprouve une émotion à chaque fois intacte quand je vois les portraits de Berthe Morisot par Manet. Mmh. C'est une splendeur et c'est une femme. C'est une femme qu'on rêverait de croiser.
Oui, mais ce n'est que l'exception qui confirme la règle.
Pourquoi l'exception? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est l'exception?
Par rapport au nombre des œuvres qui occultent d'une certaine manière, comme chez Fautrier, le visage humain, ou tout simplement la dimension humaine d'une humanité qui se cherche et qui se perd sans jamais se trouver dans une sorte de post-humanité qui renvoie à d'autres figures, des figures post-humaines. On travaille de plus en plus à l'heure actuelle sur le post-humain ou sur le transhumain, comme si l'humain était frappé d'une sorte de misérabilisme qu'il faudrait éliminer en tant que tel, comme s'il y avait quelque chose de radicalement mauvais dans l'homme qui est représenté en particulier par tout ce qui renvoie à sa tête, on en a déjà longuement parlé, à son visage, c'est-à-dire à une expression. Et le problème, c'est que dans nos sociétés, nous n'aurons plus, si nous perdons le visage, vous voyez Lévinas, nous n'aurons plus de vis-à-vis en tant que tel. Oui. Sinon, sur des réseaux sociaux, vous aurez d'autres vis-à-vis de type supposé, de type virtuel, qui ne se révèle pas dans le face-à-face, en quelque sorte. Oui. Nous avons perdu la face, d'une certaine manière, dans le monde moderne.
Vous diriez cela aussi?
Oui, oui, perdu la face et perdu la contenance, ce qui est à peu près la même chose. On a perdu contenance, on a perdu la face, et on a perdu le vis-à-vis qui nous permettait de nous reconnaître. Oui, Manet, oui, Morisot.
Oui, Berthe Morisot. Oui.
Berthe Morisot, bien sûr, et tellement d'autres. Mais en même temps, il y a une reconnaissance qui se fait entre... Parce que le problème, c'est l'isolement, la solitude de l'individu. Pendant, encore une fois, des siècles et des siècles, la construction d'un visage était permise par des processus, des procédés, des théories de construction du visage qui partaient d'un corpus extrêmement savant. Je pense à Dürer. On ne construit pas les visages n'importe comment. Dürer propose une façon de construire les visages. Charles Lebrun, en France, propose une façon de construire les visages, et ainsi de suite. Chaque époque... Et à partir de cette espèce de norme mathématique extrêmement précise, chaque artiste singulièrement peut ensuite greffer sur cette structure presque immobile les variations, comme en musique, des variations extraordinairement subtiles. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de normes pour construire un visage. Sur quoi vous allez vous appuyer? Et vous ne pouvez pas non plus vous appuyer sur les normes ou les règles de la société. Pourquoi? Un visage représentant quelle classe, quel statut, quel pouvoir, quelle puissance, quelle autorité? Rien du tout, sauf dans le cas du tyran, du chef des peuples, du petit chef des peuples. Mais alors là, on aboutit effectivement à des monstruosités. Vous avez cité Brecker. Brecker étant le plus doux, si je puis dire, le plus aimable de toute cette production. On pourrait, si on allait en Union soviétique, on trouverait des exemples encore beaucoup plus terrifiants.
Oui, mais aujourd'hui, nous en parlerons de l'aujourd'hui, mais encore un mot sur hier. Je citais Manet. Il y a aussi un autre peintre sur lequel je crois que vous avez écrit, Jean-Clair, Vuillard. Les silhouettes féminines, notamment dans la peinture de Vuillard, sont d'une beauté, et les couleurs, absolument renversantes. Donc l'art a eu, voilà ce que j'essaye de dire, malgré tout, le souci de la beauté, bien après l'invention de l'esthétique, et ce divorce de l'art et de la beauté est en effet une catastrophe, mais j'ai une double question. D'où dater cette catastrophe? A-t-elle un rapport avec l'hubris? Et puis aussi, deuxième question, n'y a-t-il pas aujourd'hui des artistes contemporains qui se refusent à ce divorce et qui travaillent dans une très grande solitude, mais pour, selon le terme d'Aragon, poursuivre la longue enquête, Jean-Clair?
Oui, bien sûr. Il y a des filiations d'artistes qui sont très étonnantes et qui sont extrêmement fortes. À propos de décapitation, on peut évoquer Giacometti, évidemment. Giacometti qui claque la porte des salons surréalistes parce qu'il veut revenir à quoi? Au visage, dit-il. Et lorsqu'il confie cela à Breton, Breton lui ricane en disant « Mais enfin, une tête, on sait bien ce que c'est qu'une tête. » Et Giacometti dira « Mais non, précisément, une tête aujourd'hui, c'est ce dont on sait le moins. » Et il commencera, à partir de 45-46, cette longue aventure qui le poussera à fabriquer, à modeler, à sculpter des têtes. Mais après Giacometti, il y a effectivement toute une espèce de filiation très secrète, mais de gens qui se reconnaissent entre eux. C'est Balthus, évidemment, qui admire beaucoup Giacometti. C'est Lucian Freud, par exemple, le petit-fils de Freud, qui va venir vivre à Paris, ce qu'on ignore, en 52-53, rue des Beaux-Arts. Pourquoi ? Pour pouvoir rencontrer Balthus, qui habite à côté, passage du Commerce. Donc il y a toute une histoire qui n'est pas écrite, qui est effectivement la permanence, mais j'allais dire désespérée. Elle n'est pas désespérée, ils ont laissé une œuvre, ils sont heureux, de gens qui ne se reconnaissent pas du tout dans l'art officiel, dans l'art kitsch de notre époque, et qui continuent à bâtir une œuvre solitaire, mais néanmoins en se reconnaissant à distance.
Ce n'est pas simplement le visage qui est occulté ou oblitéré en quelque sorte, c'est aussi le paysage qui a disparu. Le monde a disparu. Il existe encore au cinéma, il existe encore au théâtre sous forme de décor ou sous forme de représentation réelle et figurative du monde dans lequel nous vivons. Mais le monde s'est effacé en même temps que le visage humain et au-delà même, la cité n'est plus tellement présente en tant que telle.
Dans l'art,
la présence des autres hommes ou la présence de la cité qui était singulière dans l'art grec ou par la suite dans l'art renaissant, je pense aux cités idéales qui sont peintes par un très grand nombre de peintres renaissants à partir de structures là aussi architectoniques et mathématiques qui essayent de réaliser dans la constitution, non pas conceptuel comme chez Platon dans la République, mais dans la constitution figurative de la cité, une représentation du monde et donc de la beauté. La transcendance de la beauté concernait les trois niveaux d'existence humaine, le niveau du monde dans lequel nous vivons, après tout, naître, c'est venir au monde, la cité dans laquelle nous habitons et l'homme qui est ce que nous sommes en tant que tel. Donc je crois qu'il y a eu un triple effacement à la fois du monde, de la cité et de l'homme dans ce qu'on appelle l'art contemporain, qui lâche la bride, en quelque sorte, à toutes les puissances, non pas de l'imaginaire était toujours présent, mais à toutes les puissances de l'inconscient, c'est-à-dire à toutes les puissances de l'hubris en tant que tel. Oui. C'est l'hubris qui est représenté dans l'art contemporain.
Tout à fait, oui.
Oui, mais alors, en même temps, il y a ce qu'on appelle l'art contemporain, l'art qui a le label de l'art contemporain, mais il y a aussi, et j'y reviens quand même, l'extrême solitude d'un certain nombre d'artistes qui se refusent au diktat de cet art contemporain titularisé. Moi, je voudrais en citer un, que vous connaissez peut-être, qui a été d'ailleurs, en son temps, célébré par Aragon. C'est Alain Kleinman. C'est un peintre de la transmission, un peintre de la mémoire, un peintre de la catastrophe même, de la Shoah, qui est très moderne par l'usage qu'il fait d'un certain nombre de matériaux, des plus nobles aux plus humbles, à l'intérieur de sa peinture. Mais c'est une peinture extrêmement émouvante, puisqu'elle nous dit la catastrophe. Simplement, cela reste de la peinture et cela reste de la beauté. Et je crois qu'on pourrait citer d'autres artistes aussi. Donc, c'est un peu... Que font les artistes face à cet immense massif de l'art contemporain ? Il est très difficile d'être un artiste aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'un des sujets de l'immortalité de Kundera. Un grand peintre qui n'est pas né à son heure.
Ce n'est pas simplement l'ensemble de l'art contemporain qui est en cause, mais c'est l'ensemble des idéologies contemporaines. Si je puis vous donner un exemple anecdotique, lorsque j'ai participé pendant quelques années à l'agrégation d'art plastique, j'ai fait rire tous mes collègues universitaires comme moi quand j'ai osé parler de beauté. Rapport aux dissertations que nous lisions de ceux qui présentaient l'agrégation d'art plastique ou par rapport aux oraux qu'ils passaient, parler de beauté était totalement incongru. Il faut éliminer la beauté. Beauté, je l'ai injuriée, dire un beau quelque part.
Vous auriez la même réaction aujourd'hui, ce serait des ricanements aujourd'hui, généralisés.
Alors, j'ai une question plus générale à vous poser. Justement, je citerai Hannah Arendt, une citation extraite du beau livre de Bérénice Levet, le musée imaginaire d'Hannah Arendt. Un chapitre est consacré à l'homme cultivé. Et dit Arendt, cité donc par Bérénice Levet, l'esprit de l'homme cultivé est un esprit si bien formé qu'on peut lui faire confiance pour veiller et prendre soin d'un monde d'apparition dont le critère est la beauté. Donc, dès lors que la beauté n'est plus le critère, n'est-ce pas la culture elle-même qui est en danger ? C'est-à-dire, que restera-t-il de la culture si l'on s'émancipe ainsi de la beauté dans l'art ? Est-ce légitime de se poser cette question ?
Vous savez très bien que Patochka a fait remarquer que la culture, c'était exactement ce qu'il entendait par le soin de l'âme. Pourquoi est-ce qu'il utilise le terme de soin ou de souci de l'âme ? Tout simplement parce que colere en latin, qui signifie cultiver, signifie d'abord soigner. Et donc la cultura, le terme est créé par Cicéron quand il parle de la cultura animi, la culture de l'âme, c'est essentiellement le soin que l'on porte à soi-même afin de produire des fruits, exactement comme l'agriculteur donne des soins à sa terre pour produire des fruits qui vont nous nourrir. Oui. Dans un cas, ce sont des fruits matériels, si je puis dire, dans l'autre cas, ce sont des fruits spirituels.
Oui, vous dites à propos de Diké, d'ailleurs, la justice, donc la règle en grec, avec ce nom de Diké, vous dites qu'au fond, ça a donné naissance au français dikere, enfin au latin dikere, disserrer, qui est plus que le dire, c'est le bien dire.
Dicere, c'est
ce qui dit le droit. Donc, et c'est même à la limite le bénir, au sens de benedicere, benedicere, pas quelle est la bonne prononciation. Donc, bien dire, bénir, c'est respecter la beauté de la création. Toute chose aujourd'hui qui nous semble évidemment.
Et c'est cela qui est en train de s'effacer. C'est cela qui est en train de s'effacer aujourd'hui.
Alors, est-ce que ça s'efface définitivement ? Parce que je disais tout à l'heure qu'on peut peut-être faire une typologie. Ceux qui seraient du côté de l'hubris et ceux qui seraient du côté de Némésis. Il y a toute une pensée qu'on peut placer dans le camp de Némésis et notamment celle de Camus, que vous citez abondamment, et ce texte particulièrement tiré de l'été, l'exil d'Hélène, l'exil
texte
de la
magnifique.
Beauté, aujourd'hui, avec cette phrase magnifique et très belle, et vous avez raison, Jean-François Mattei, certains philosophes, pas vous, traitent avec beaucoup de désinvolture et un certain mépris Camus. Voici une phrase d'une extraordinaire profondeur philosophique. « Tandis que les Grecs donnaient à la volonté les bornes de la raison, nous avons mis pour finir l'élan de la volonté au cœur de la raison qui en est devenue meurtrière. » Bien, mais en même temps, et on peut citer Hannah Arendt, Heidegger, Hans Jonas, est-ce qu'il n'y a pas dans cette pensée-là un recours contre l'hubris de la modernité et peut-être pour les artistes un point d'appui qui leur permettrait de résister au diktat de l'art contemporain?
Oui, parce que l'hubris n'est pas totalement condamnable en tant que tel. Vous citiez Camus il y a un instant, à la fin de La pensée de midi dans L'homme révolté, Camus dit, cette phrase tout à fait étonnante, « La vraie folie de démesure meurt ou crée sa propre mesure ». Autrement dit, la mesure ne vient jamais, ça c'est le grand enseignement des Grecs et d'auteurs comme Heidegger, comme Hannah Arendt, comme Camus dont vous avez parlé, la mesure ou la diké ne vient jamais de l'extérieur pour venir mettre en ordre ce qui serait totalement chaotique. C'est le chaos qui, de lui-même, va créer sa propre mesure. C'est la démesure elle-même qui, quand elle commence à se rythmer, en quelque sorte, et à s'auto-mesurer, peut donner la mesure. On le voit très bien, d'ailleurs, dans la tragédie grecque, qui est un ensemble de démesures non seulement psychologiques, mais politiques et finalement sociales, mais qui arrive à trouver une mesure non seulement dans le vers grec de la littérature, du théâtre, mais dans la mesure même des actions des hommes en tant que tels.
Jean-Claire ?
Oui, effectivement, la mesure n'est pas une chose imposée de l'extérieur, elle sort d'un processus presque de sculpture jusqu'à l'ongle près, effectivement, qui fait qu'on revient à la mesure à partir d'une expérience de la démesure dont on mesure, si je puis dire, l'illimitation monstrueuse.
Donc on y reviendra peut-être ?
On peut espérer qu'on y reviendra, mais personne ne dit que ce sera sous la forme de beaux-arts.
Vous parliez
du cinéma tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, les grands chefs-d'œuvre de notre époque ne sont pas du côté des tableaux ou de ce qui en fait. Qui sont pendus dans les musées, c'est peut-être dans les salles obscures, ce qu'avait prévu Benjamin d'ailleurs. Le grand cinéma populaire qui produira des chefs-d'œuvre, c'est pas la peinture, c'est pas les beaux-arts, c'est le cinéma.
C'est indiscutable. Je pense à Terrence Malick et à la vision qu'il donne à la fois de l'homme et du monde, qui est une vision quasiment cosmique, au sens heideggerien du terme, ou au sens traditionnel du terme.
Oui, on peut penser aussi à Lars von Trier,
dans Mélancolie.
Il aurait sans doute obtenu la Palme d'Or s'il n'avait pas commis une sorte de suicide intellectuel et politique dans une conférence de presse.
Et rhétorique.
Sur lequel il vaut mieux, en effet,
glisser.
Mais alors, un dernier mot, Jean-Claire, je voudrais citer la phrase finale de l'un de vos livres précédents, « La responsabilité de l'artiste », parce qu'elle est très belle. « Gott ist Form » avait un jour écrit Gottfried Benn dans une fulgurante intuition. « Dieu est forme ». C'est la seule réponse possible, me semble-t-il, au sarcasme d'un art contemporain qui a tout oublié de ses devoirs, mais aussi de ses pouvoirs. Est-ce que vous pouvez commenter cette phrase?
Oui, elle est d'autant plus étonnante qu'elle vient d'un poète qui a été, compromis dans le régime national-socialiste, au point, évidemment, tout de même, là aussi, le retour à la limite, dans l'illimitation de l'horreur, qui est revenu ensuite des positions un petit peu plus humaines ou humanistes, je ne sais pas comment dire. Effectivement, il était biologiste, d'ailleurs. Donc son expérience de biologiste, beaucoup plus que son expérience de poète, lui dictait une pensée qui est effectivement une pensée a priori spiritualiste, a priori théogonique, et en fait une pensée profondément humaine centrée sur, hantée sur la, sur le, oui, sur le oui, la biologie, le fonctionnement du corps humain, le logos de la vie.
Oui, en même temps, c'est la forme. La forme,
c'est temps, pas c'est la forme, c'est pas abstrait. C'est vraiment.
C'est pas abstrait. C'est, Dieu est forme.
Et ça conduit à la mort et non pas à l'immortalité, qui est une des formes, effectivement, de l'hubris contemporain.
Alors,
qu'aujourd'hui, on veuille être immortel comme les dieux, cela, c'est bien l'hubris dans toute sa splendeur.
Un mot,
simplement un mot pour terminer, à savoir que l'hubris nous constitue, nous forme et nous déforme à tout moment, dans tous les domaines de l'existence actuelle, en économie, en politique, ou dans la représentation de l'homme. Il ne faudrait quand même pas être trop pessimiste, parce que nous avons parlé surtout de la représentation plastique de l'homme, mais il existe aussi la musique, il existe aussi l'opéra, il existe aussi le cinéma.
On en a parlé du cinéma. Ben, très bien, et nous terminerons sur cette note pas trop pessimiste, je voudrais ajouter une citation de Gottfried Benn, que j'ai apprise de Thérèse Delpech, c'est l'occasion de lui rendre hommage. Gottfried Benn disait « Nous savons que les hommes n'ont pas d'âme, si seulement ils avaient un peu de tenue ». Voilà une belle phrase, et je voudrais citer vos deux livres. Jean-Claire, « Hubris, la fabrique du monstre dans l'art moderne », il est publié chez Gallimard. Le vôtre, « Le sens de la démesure », Jean-François Mattei, est publié aux éditions Sulliver. J'ai cité également de Bérénice Levet, le musée imaginaire de Hannah Arendt chez Stock. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site franceculture.fr. Vous pouvez télécharger l'émission pendant 15 jours et la réécouter dorénavant durant 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Qu'est-ce qu'être français ?». Mon invité sera Jean Daniel. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Stéphane Desmonts. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.